France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
On estime qu'il y aurait 1 à 2% de psychopathes dans la population générale. La psychopathie n'est pas classée comme une maladie mentale, mais comme un trouble de la personnalité. Comment le diagnostic se pose-t-il ? Il fascine la culture populaire et affole la presse à sensation. Dans l'imaginaire collectif, le psychopathe est un tueur froid, cruel, sans conscience morale, sans empathie. La réalité psychiatrique est bien plus nuancée. Rationnel et conscient de ses actes, le psychopathe n'est pas nécessairement violent ni criminel, et toute personne violente n'est pas psychopathe, même si leur surreprésentation en prison est significative. Comment démêler fiction et sensationnalisme de la réalité clinique et comment se forge ce trouble neurodéveloppemental de la personnalité ? Psychopathe, trouble dans l'empathie. Sarah Asmadja, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef de service au GHU Psychiatrie Paris et experte judiciaire. Daniel Zaguri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre des hôpitaux honoraires et expert honoraire auprès de la Cour d'appel de Paris. Merci. Un grand merci à vous deux d'être là avec nous en direct dans nos studios à France Culture. Et merci également à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur Blue Sky. Pour vous, inlassablement, nous postons des liens, des ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte à Science CQFD. Alors à quoi reconnaît-on un psychopathe ? Que nous disent les études rétrospectives sur leur parcours ? Et ce trouble peut-il être soigné ? Nous avons une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Sarah Asmadja, qu'est-ce que la psychopathie ? C'est pas une maladie reconnue dans le DSM. Le DSM, c'est la bible de la psychiatrie.
Tout à fait. C'est très important de dire que ça n'est pas une maladie. C'est un trouble de la personnalité. Qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité ? C'est une façon d'être au monde qui est un peu figé, qui commence, on parle de personnalité à partir de l'âge de 18 ans, et qui se caractérise par trois dimensions principales, une dimension affective avec une froideur, une absence d'empathie ou une diminution de l'empathie, une absence de culpabilité, et une dimension interpersonnelle aussi, puisque ce sont des personnes qui vont avoir une forme de séduction pour pouvoir manipuler autrui, et enfin une dimension comportementale avec des conduites antisociale, qui se caractérise par une transgression des règles et des normes sociales.
Finalement, différence entre trouble et maladie dans le DSM, qu'est-ce que ça suggère finalement comme différence fondamentale ?
Alors, c'est une grande question qui est essentielle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dimensionnel dans les troubles de la personnalité. On a chacun une construction de la personnalité faite de traits qui vont s'exprimer de certaines manières et qui vont être plus ou moins figés au cours de l'existence. Une maladie, comme son nom l'indique, c'est un trouble qui va pouvoir se soigner, qui va pouvoir avoir un diagnostic qui correspondra à certaines caractéristiques très précises et qui va pouvoir bénéficier de soins. Et les grandes maladies psychiatriques correspondent à la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression par exemple.
Daniel Zaguri, en préparant cette émission, je voyais qu'on parlait de l'école française qui parle de déséquilibre, l'école anglaise qui parle de sociopathie, l'école allemande de psychopathie. Enfin, est-ce que la définition finalement de ce trouble est clair.
Il ne faut pas que les définitions soient réductrices. C'est-à-dire qu'on est devant un champ qui va, si vous voulez, d'Hannibal Lecter, c'est-à-dire l'immense psychopathe cruel, froid, comme ça, qui est un objet littéraire, mais qui, dans la réalité, n'existe pas vraiment. Ça va jusqu'à les valseuses, avec Patrick Devers et Gérard Depardieu. Et c'est pas tout à fait les mêmes. C'est un champ qui est assez vaste, vous avez ou bien des petits voyous instables, toxicomanes, impulsifs, avec une très faible conscience morale et une tendance aux transgressions répétées et aux violences, ou bien vous avez des personnalités plus organisés, plus continus dans leur action, mais marqués par une absence assez sidérante d'empathie et par, disons, une vision du monde qui ne connaît que deux postures, celle du dominant et celle du dominé. Et d'ailleurs, on pourra se demander si nous ne sommes pas dans un malaise psychopathique dans la civilisation.
Et on reviendra en effet sur l'un de vos livres et sur les traits psychopathiques de notre époque. Mais d'abord, quels sont les traits principaux de ce trouble ? La question est posée en 1976.
Il y a ces crimes qui participent de ce qu'on appelle les personnalités psychopathiques. Grand sujet qui est mal cerné depuis le 19e siècle et qui pose aux experts les problèmes les plus graves, parce que justement, il participe de l'inconscient des personnes et que, comme l'a dit Freud une fois, ce n'est la seule phrase que je citerai de lui, on n'est pas maître de l'inconscient des autres. C'est ce qui se fait souvent en psychanalyse, on arrive à comprendre l'inconscient des autres. Là, c'est une mission très difficile. Donc, ces personnalités psychopathiques se caractérisent par une immense immaturité affective, une instabilité considérable de l'humeur et de l'émotivité, l'impossibilité de réfréner ses pulsions. Ce sont souvent des sujets qu'on a dit pas très intelligents. Il n'y a aucune preuve convaincante à cet égard. Ils sont d'une intelligence à près normale, mais d'une rétivité absolue, d'une amoralité parfaite. Et on peut considérer, parce que j'en ai vu beaucoup, et je n'engage que moi en disant ça, que la plupart du temps, c'est certainement des problèmes du développement de la personnalité affective qui a amené cette espèce d'agressivité foncière, cette espèce de règlement de compte à l'égard de la société, même si c'est un très malheureux petit enfant qui est là en face d'eux.
Voilà, le meurtre du petit Philippe Bertrand dans le journal d'Inter en 1976. La voix de Jean-Louis Armand Laroche, médecin expert auprès des tribunaux. Daniel Zaguri, vous étiez, je vous voyais en train d'écouter très concentrée cette archive. Étiez-vous d'accord avec justement la définition de ce médecin ?
Comme toujours, d'accord et pas d'accord. Il dit effectivement la difficulté du psychiatre en face du psychopathe, et il évoque cette instabilité, cette impulsivité, ce que Flavigny appelait les discontinuités brisantes, c'est-à-dire cette incapacité à avoir un sentiment continu de soi-même. Donc il évoque à grands traits ce que le praticien ou l'expert voit, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas très souvent.
Sarah Smadja, on entendait aussi dans cette archive, hein, le problème c'est que le sujet est mal cerné, finalement c'est toujours le cas aujourd'hui.
Alors, c'est toujours le cas parce qu'en fait il y a une grande hétérogénéité du concept. La description de Laroche est presque plus proche de ce qu'on qualifie de trouble de la personnalité antisociale qui, là, est défini dans le DSM, la classification internationale des maladies mentales, alors que la psychopathie n'en fait pas partie, hein, c'est quand même un point essentiel. Alors, c'est une définition qui est très comportementale, qui se traduit donc par des transgressions aux règles, une impulsivité qui se manifeste de cette manière. Et donc, la psychopathie, c'est un peu différent. C'est un noyau affectif qui comprend ces troubles comportementaux, mais auxquels s'ajoute cette dimension de froideur, d'absence d'empathie, d'absence de remords et de culpabilité. Ça, c'est un point essentiel qui fait qu'il y a une forme de confusion, parce que le DSM considère que c'est une sorte de sous-partie, la psychopathie, une sous-partie du trouble de personnalité antisociale, alors que d'autres auteurs vont considérer que ce sont finalement deux choses et deux troubles différents.
Une sous-partie, voilà. ou peut-être un synonyme, donc, si je comprends bien.
Pas tout à fait, non, pas un synonyme. Vraiment, il y a une forme d'overlap ou de d'overlap de symptômes, mais la froideur, le noyau de froideur ne sera pas forcément présent chez toutes les personnalités antisociales, qui pourront avoir des affects un petit peu plus chauds finalement que les vrais psychopathes caractérisés par leur froideur.
Daniel Zaguri, justement sur cette froideur et sur cette empathie, cette non-empathie chez les psychopathes.
Ah, c'est le noyau central, c'est ce qui les caractérise et ce qui fait poser la question dans le cas des personnalités plus stables, plus continues dans leur action. Par exemple, des psychopathes en col blanc. De formes de psychopathie que nous ne voyons pas dans les hôpitaux. Parce qu'il faudrait quand même qu'on évoque aussi la façon dont on les rencontre, ces gens-là. Et donc, on a beaucoup glosé sur des métiers qui entreraient en résonance avec la psychopathie, chef d'entreprise, par exemple, les médias, j'ai vu aussi beaucoup. Oui. Alors, il faut pas non plus accorder trop d'importance à cette adéquation entre un certain type de personnalité et la psychopathie, mais la froideur, l'absence d'empathie, le fait de ne pas souffrir avec celui qui souffre, ça peut permettre dans certaines conditions ou dans certaines conditions ou dans certains métiers d'accomplir sa tâche, je dirais, de façon plus efficace.
L'absence d'empathie, en effet, tout à l'heure je faisais non en faisant le geste des guillemets à la radio, ça ne marche pas bien. L'absence d'empathie, c'est quelque chose, Sarah Asmadjad, dont il faut parler, puisqu'il faut bien distinguer l'empathie cognitive et l'empathie affective.
Oui, c'est un point très important pour bien comprendre ce que vivent les personnalités psychopathiques. En fait, ils vont avoir une sorte de grande acuité à reconnaître les émotions des autres. Ce ne sont pas du tout des personnes qui ne comprennent pas les autres. Ils les comprennent au contraire très bien. D'où cette capacité à séduire, à manipuler les personnes psychopathes qu'on peut rencontrer dans le cadre d'expertise alors qu'ils sont incarcérés. En général, c'est des entretiens qui se passent très bien et qui vont même être plutôt sympathiques. Donc, ils ont cette capacité à entrer en relation avec autrui. Donc, ils ont une empathie cognitive. Ils savent l'utiliser quand ça leur sert, mais ils ne ressentent pas sur le plan affectif, ils n'ont pas la même intégration que les autres sur le plan affectif, à quoi ça correspond.
Oui, c'est très important. Moi, j'ai examiné un certain nombre de tueurs en série, et je me souviens, par exemple chez Guy Georges, de cette capacité extraordinaire, je dirais supra-normale, à saisir les failles de l'autre, qui est inversement proportionnelle à leur aptitude à se comprendre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à comprendre l'autre, à comprendre son fonctionnement, et surtout ses failles, mais eux-mêmes sont incapables de se comprendre eux-mêmes.
Mais alors je lisais, Sarah Asmadja, je lisais, ce serait donc un individu qui serait incapable d'établir des relations affectives normales avec autrui, mais qui par contre serait normal sur le plan du raisonnement intellectuel. Finalement, c'est quoi établir une relation affective normale? Ou est-ce que c'est pas une question de psychopathe aussi, non, d'ailleurs?
Vaste question, alors c'est toujours difficile de définir la norme. Peut-être quand même un point important, c'est le grand psychiatre qui a décrit, qui a été un des premiers à décrire la psychopathie, c'est Hervé Cleckley, qui a écrit un livre en 1941 qui s'appelait The Mask of Sanity, donc le masque de la normalité. Et ce qu'il décrivait, c'était vraiment, il avait vu un certain nombre de personnalités psychopathiques, et il décrivait une normalité de façade qui entrait en inadéquation avec, au contraire, la monstruosité qui pouvait se cacher derrière. Donc, définir ce qui est entré en relation de façon normale, c'est un peu complexe. Ils ont cette normalité de façade, c'est ça qu'on peut dire.
Alors, est-ce qu'on est psychopathe ou est-ce qu'on le devient? Quelle est la part de biologique et la part de vécu? Restez avec nous.
Écoutez-moi très attentivement, Starling.
Oui, monsieur.
Soyez très prudente avec Hannibal Lecter. À l'asile, le docteur Chilton vous résumera les mesures de protection physique à observer. N'oubliez jamais ce qu'il est.
Et quel genre d'homme est-il?
Oh, c'est un monstre. Un pur psychopathe. C'est tellement rare d'en capturer un vivant. Du point de vue de l'observation, Lecter est un spécimen inestimable.
France Culture. La science CQFD. Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Daniel Zaguri et Sarah Asmadja, nous parlons de la psychopathie. On vient d'évoquer la grande hétérogénéité du concept et puis là on vient d'entendre petit clin d'œil au silence des agneaux, Hannibal Lecter, immense psychopathe pervers, c'est le grand psychopathe criminel à l'américaine. Daniel Zaguri, pourquoi le psychopathe fascine-t-il autant? C'est son absence d'empathie, justement?
Alors, il fascine autant parce que il n'est pas encombré par ce que la plupart des hommes ressentent, la culpabilité, la honte, être freiné par la souffrance quand l'autre souffre, etc. Donc il est, alors, avec ce risque d'en faire une sorte de légende du mal, une espèce de héros négatif, mais héros quand même, parce que justement, il est au-dessus de la condition humaine, il est débarrassé des oripeaux de ce qui nous encombre dans la relation aux autres et dans la relation au monde. Donc, il est perçu, paradoxalement, comme puissant et fort.
Bah, cette fascination, ça crée beaucoup de sensationnalisme, Sarah Madja. Alors, comment, que peut-on retenir de la réalité derrière ces représentations?
Alors, ça crée du sensationnalisme et ça crée de la confusion, finalement. Parce que, alors, on n'a pas parlé de l'étymologie du mot psychopathe, c'est quand même la pathologie de la psyché, ça signifie finalement maladie mentale. Or c'est faux, ça n'est pas une maladie mentale, et surtout, ce que ça induit, c'est une forme de confusion, parce que ce qu'on retient de ces figures comme Hannibal Lecter, c'est leur dangerosité, et ça crée une confusion entre maladie mentale et dangerosité. Or, on sait, nous psychiatres, que une grande majorité de nos patients ne sont pas dangereux, ils sont plutôt victimes de violences qu'auteurs de violences. Donc, il y a une forme de dévoiement du terme qu'il faut remettre un petit peu en perspective.
Mais justement, quelle est la prévalence dans la population générale? J'évoquais le 1 à 2% de psychopathes. Ça veut dire que c'est un trouble rare, Sarah Madja?
Alors, c'est 1%, c'est pas si rare que ça, en fait.
Pas si rare, d'accord.
C'est effectivement 1 à 2% de psychopathes. Et si on reprend la personnalité antisociale dont je parlais tout à l'heure, qui est une forme de grand cluster un peu plus général, c'est un peu plus que ça, hein, c'est 3 à 5%. Donc c'est quand même conséquent.
Et dans le cadre par contre, du milieu carcéral, là, les chiffres, en effet, par contre, deviennent plus importants, Daniel Zaguri.
Ah bah oui, il y a une surreprésentation des psychopathes en prison. Et d'ailleurs, ils y sont souvent très bien intégrés et ils ne s'en plaignent pas. Donc, évidemment, la délinquance et la prison sélectionnent dans ces 1 à 2% un grand nombre de sujets.
On évoquait cette prévalence, Sarah Madja. La psychopathie semble concerner plus les hommes que les femmes, mais y a-t-il vraiment moins de femmes psychopathes? Est-ce qu'on n'a pas des biais méthodologiques, finalement, des biais de genre sur cette question-là?
Ouais, alors, il est vrai que beaucoup d'études sont réalisées en prison, les études de prévalence en prison, elles concernent beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, quand même, il y a un biais de... Enfin, c'est genré comme trouble. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a environ 3 fois plus d'hommes qui présentent ce trouble de la personnalité que de femmes. Cependant, on peut en effet se poser la question de savoir si on a bien diagnostiqué ce trouble chez les femmes. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, dans le DSM, la définition, elle est très comportementale. Donc, ça se manifeste par de la violence, des transgressions qui sont bruyantes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les retrouve en prison, parce que c'est bruyant. Mais en fait, il y a plein de transgressions qui sont non bruyantes. Et les femmes sont, somme toute, peut-être un peu plus subtiles dans la transgression. Et vont avoir recours à peut-être un peu plus de manipulation et à moins de violence externalisée. Et plutôt, elles vont être mises en cause dans des délits d'ordre, des escroqueries, de faux, usage de faux, etc. Donc en fait, elles passent un peu sous le radar, probablement.
Daniel Zaguri?
Oui, c'est exact. La délinquance des femmes n'est pas centrée sur la force physique. On la retrouve dans les incendies criminels, hein, voilà, parce que gratter une allumette, ça ne nécessite pas de force physique, et on la retrouve dans ce qui est spécifiquement féminin, hein, les néonaticides par exemple. Enfin bon, il y a une délinquance des femmes. Alors, elle est moins fréquente. En même temps, la tendance actuelle, c'est de ne lire la délinquance des femmes qu'à travers l'incitation masculine ou la défense contre le masculin. Je crois que on ne connaît la norme qu'à travers sa transgression, disait Canguilhem, dire que les femmes n'ont pas, par exemple, de délinquance sexuelle, ce qui est faux, c'est dire qu'elles n'ont pas de sexualité. C'est dire qu'elles n'ont pas de sexualité propre. Et donc, paradoxalement, ce regard idéalisant sur le féminin est aussi un regard misogyne.
En tout cas, Sarah Smadger, on peut dire que l'expression symptomatique de la psychopathie chez les femmes vont être, par exemple, plus souvent diagnostiquées comme borderline et les hommes psychopathes.
Oui, c'est un peu ce qu'on voit cliniquement, hein, parce que ce sont en fait deux troubles de la personnalité qui appartiennent au même cluster, c'est-à-dire que ça se manifeste par des troubles du comportement, et ça va en effet être un diagnostic plus facilement porté chez les femmes vers le trouble de la personnalité borderline ou histrionique, et chez les hommes vers un trouble de la personnalité antisociale, peut-être à tort donc.
Et vous utilisez tout à l'heure, Daniel Zaguri, l'expression, voilà, l'idée des psychopathes en col blanc. Tous les psychopathes ne sont pas des criminels. Il y a donc ceux-là, les psychopathes à col blanc. Mais alors, ce n'est pas un mythe? Que recouvre ce terme, finalement?
Alors, les psychopathes, on les retrouve en prison, on les retrouve après des actes de violence, on les retrouve après des crimes, on les retrouve après des escroqueries. Qui nous dit que cette froideur, cette absence d'empathie, cette façon de considérer le monde comme divisé entre les dominants et les dominés, ça n'est pas aussi une façon d'être plus efficace dans un certain nombre de tâches. Bon, alors, je vais quand même pas citer des noms. Moi, il m'est arrivé d'avoir des discussions avec, vous savez, dans, par exemple, quand on fait un nettoyage, hein, et que on licencie un grand nombre, par exemple, dans un hebdomadaire. Hein, donc, moi, j'ai eu des récits de personnes comme ça qui m'ont raconté des rencontres qui m'ont sérieusement permis d'associer ce qu'ils me disaient avec des personnalités psychopathiques. Pourquoi si vous voulez, et c'est là quand même, moi quand je me suis intéressé aux tueurs en série, j'ai été quand même très très intéressé par le fait qu'on en faisait comme ça des légendes du mal, et qu'il y avait une fascination, mais également avec des aspects positifs. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui ne connaissent que la force. Et il y a donc une fascination et un respect pour la force pure, et il suffit d'écouter, de regarder un petit peu l'actualité mondiale en ce moment, pour voir qu'un certain nombre de psychopathes sévissent à la tête d'un certain nombre de pays, et que on a même plus, si vous voulez, avec une exclusion de toute moralité et une fascination et un respect pour la force pure.
Je vous voyais sourire, Sarah Smadja.
Oui, en effet, parce que je suis assez d'accord sur finalement l'aspect un peu évolutif de ces traits. Finalement, dans une perspective darwinienne, pourquoi est-ce que c'est resté? Parce qu'en fait, ce sont des traits qui peuvent être très utiles. Le fait de ne pas avoir peur fait que on peut aller au front, on peut licencier des gens, et ça permet des évolutions de carrière qui sont notables. Donc voilà, je pense que c'est à mettre dans cette perspective-là. Et on a tous, je pense, des traits de personnalité, pas forcément, on n'est pas tous forcément psychopathes, mais on peut relever de certains traits de personnalité psychopathique, histrionique, qui vont être le reflet de la société telle qu'elle est aujourd'hui.
Cette société telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas, Daniel Zaguri, c'est ce que vous décrivez dans le livre « Malaise psychopathique dans la civilisation ». Voilà cette prédominance de la force pure sur tout le reste. Vous dites que tous, toutes et toutes, pourraient avoir des traits comme ça de personnalité psychopathique. Sarah Smadja, chez les jeunes enfants.
Alors, grande question, les enfants. Alors, on parle
un enfant
pas
qui s'amuse à arracher des ailes de mouche.
On ne parle pas de troubles de la personnalité chez l'enfant, que les choses soient très claires. Néanmoins, les recherches ont montré que certains aspects qui sont des traits de froideur, des traits de troubles des conduites, vont être pourvoyeurs plus tard d'une évolution vers le trouble de la personnalité psychopathique. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un déterminisme total. Ces traits-là sont à surveiller et sont à accompagner pour justement éviter le glissement vers ce trouble de la personnalité.
Daniel Zaguri.
Alors, vous parlez des mouches. Alors, quand c'est des mouches, quand c'est comme ça des insectes ou des tout petits animaux, je dirais que c'est banal. Ça ne veut pas dire qu'il faut féliciter ses enfants si on les surprend. Par contre, la cruauté à l'égard des petits mammifères, des chats, des chiens, c'est beaucoup plus, c'est l'alerte rouge. Hein. C'est-à-dire que quand un enfant, moi je me souviens d'un certain nombre d'affaires où effectivement, c'est ce qu'on dit d'ailleurs d'un certain nombre de tueurs en série, c'est-à-dire que on retrouve dans leurs antécédents une cruauté singulière à l'égard des animaux. Donc là, on n'est plus dans des représentations du 19e siècle de l'enfant inamendable dont le destin, si je puis dire, était tout tracé, mais comme expert, et j'imagine que Sarah en a vu aussi, hein, on voit parfois des parcours de l'enfance et de l'adolescence absolument foudroyants dans un registre psychopathique et dans une évolution gravissime.
Oui, c'est-à-dire que dans les études rétrospectives, Sarah Smadja, on voit quand même des enfances cabossées pour les personnes psychopathes.
Oui, alors ça, c'est l'environnement dans lequel grandissent ces futurs psychopathes. Vous évoquiez l'irritabilité tout à l'heure de ce trouble. Il n'y a pas actuellement de gène de la psychopathie, mais on sait qu'il y a une forme d'irritabilité. Il y a eu des études de jumeaux, homozygotes versus hétérozygotes, donc vrais jumeaux, faux jumeaux, pour simplifier, qui ont montré qu'il y a une irritabilité qui est de l'ordre de 30-40%. Néanmoins, l'impact environnemental, donc c'est-à-dire ces enfances violentées, cabossées, qui ont vécu dans un environnement insécure, vont être pourvoyeuses de cette consolidation vers un trouble de la personnalité psychopathique.
Donc en tout cas, la question du contingent biologique, il est difficile de trancher sur cette question-là, Daniel Zaguri.
Oui, c'est difficile de trancher, bien sûr, comme toujours d'ailleurs.
Et
il faut éviter les discours réductionnistes et caricaturaux. Alors, quand même, comme clinicien, quand nous faisons des biographies qu'on appelle les biographies à histoire des psychopathes, c'est des histoires de carences, de sévices, de discontinuité éducative, d'abandon. C'est ça que nous voyons de façon, je dirais, préférentielle. Alors, juste une petite illustration. Je parlais tout à l'heure avec Sarah de ce chercheur américain James Fallon, hein, donc qui est un grand spécialiste de la psychopathie et qui a eu la surprise de voir que, selon lui, hein, je dis bien selon lui, c'est peut-être un regard un peu réducteur, mais l'imagerie, sa propre imagerie fonctionnelle était celle d'un psychopathe et que sa carte génétique aussi était celle d'un psychopathe. Et il a la réponse suivante, qui vaut ce qu'elle vaut, il dit mais oui, mais j'ai eu des parents aimants et j'ai eu une continuité éducative qui m'a permis de ne pas devenir ce que j'aurais pu être, peut-être de façon préférentielle.
Alors est-ce que la psychopathie se soigne ? Guérit-on ? Comment est-on un psychopathe ? Restez avec nous.
Talking Heads, Psycho Killer, en direct sur France Culture, car nous parlons de la psychopathie, ce trouble neurodéveloppemental de la personnalité, en compagnie de nos deux invités du jour, Daniel Zaguri, psychiatre des hôpitaux honoraires et expert honoraire au cours de la Cour d'appel de Paris, et Sarah Smadja, psychiatre, chef de service au GHU Psychiatrie Paris et experte judiciaire. On vient de voir qu'il s'agit surtout d'un continuum de traits dont le degré d'expression peut varier. La prévalence de la psychopathie dans la population carcérale est élevée. Dans la population générale, elle est d'environ 1%. Maintenant, à l'heure actuelle, Sarah Smadja, quels outils vous utilisez en termes de diagnostic?
Alors, en termes de diagnostic, pour quand on évoque ce trouble de la personnalité, on utilise le DSM, qui est le diagnostic le plus utilisé des classifications des maladies mentales, ou la classification aussi internationale des maladies, la CIM. Et on peut utiliser une échelle un peu plus spécifique, parce que le DSM, ça va permettre un diagnostic qui va être très comportemental, très basé sur les conduites antisociales et les conduites de transgression. Et on va, de façon complémentaire, pouvoir utiliser une échelle qui s'appelle l'échelle de Hare, qui a été réalisée par un psychiatre canadien dans les années 80, qui a mis en évidence à la fois ces facteurs comportementaux et les facteurs affectifs dont on parlait tout à l'heure.
Et donc, à partir de ça, on arrive à créer une sorte de mesure de comment justement le diagnostic plus concrètement se passe-t-il?
Alors, je reviens encore, c'est pas une maladie, donc c'est toujours un peu
Donc on peut pas parler de diagnostic.
En tout cas, on émet des hypothèses de fonctionnement de personnalité qui sont structurées grâce à ces échelles, et grâce pas qu'aux échelles, grâce aussi à notre travail clinique habituel. Et c'est comme ça qu'on émet ces hypothèses-là, sachant quand même que il y a beaucoup de comorbidités, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de comorbidités qui sont associées, notamment des troubles de l'humeur qui peuvent être associés, ou des troubles de l'usage de substances. C'est des personnalités qui vont consommer beaucoup de drogues, de toxiques, soit stimulantes, soit calmantes, et qui vont un peu parfois rendre la lecture du tableau clinique un peu complexe.
Oui, même ce test en fait d'entretien, vous parliez d'appétence et d'aptitude à la séduction, ça peut aussi entrer en jeu à ce moment-là?
Bien sûr, c'est-à-dire que c'est toujours, l'entretien clinique est un art en soi, et il faut bien avoir à l'esprit qu'on peut être manipulé, que du coup les dimensions affectives de froideur, elles vont voir, évidemment, qu'on ne va pas demander au sujet en face de nous s'il ressent des affects comme les autres, puisqu'il va répondre qu'évidemment oui. Donc, il y a tout un tas toute une constellation de cliniques déclaratives, mais aussi de cliniques observées, qui va permettre d'amener à ce diagnostic.
Daniel Zaguri, en effet, donc l'idée, c'est qu'on mesure un certain nombre de points, et quand on atteint un certain score, on parle de ce trouble-là.
Oui, alors on parle de ce trouble-là. Bon, par exemple, la femme qui a assassiné la petite Lola et qui a été condamnée à la perpétuité incompressible avait, je crois, 34,5 sur 40 à l'échelle de Hare, pour avoir une idée. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on parle de troubles et de maladies. Après tout, c'est une convention de dire ça n'est pas une maladie, c'est un trouble. Et les psychiatres se sont arc-boutés sur cette frontière. Et les aliénistes disaient la frontière entre l'asile et la prison, c'est l'éboïdophrénie. L'éboïdophrénie, c'est une psychose pseudo psychopathique. Mais donc, les déséquilibrés, il les considérait comme responsables pénalement. Et c'est un enjeu absolument colossal sur le plan social. Par exemple, en 1999, Tony Blair a commandé à un psychiatre anglais, qui s'appelle Kendall, un rapport en lui posant cette question: est-ce que les troubles de la personnalité sont des maladies mentales. Et il a répondu non. Et parce que, comment dire, l'arrière-pensée, qui n'était même pas une arrière-pensée des politiques, c'était que une fois accompli leur peine, eh ben ils iraient dans des hôpitaux psychiatriques, n'est-ce pas ? On en fait des malades. Et la réponse de Kendall est intéressante, il a dit... Leur espérance de vie est diminuée, effectivement, ils meurent plus tôt que les autres, parce que les accidents, l'alcoolisme, la toxicomanie, enfin il y a plein de raisons qui font qu'ils vivent moins longtemps. Ils ont une vulnérabilité accrue aux addictions et aux suicides. Il facilite la survenue des maladies mentales, parce que ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est qu'on peut commencer sa carrière comme un psychopathe et la finir comme un psychotique, hein, donc... Et ça, c'est un fort contingent. C'est un fort contingent. Et ils assombrissent le pronostic des maladies mentales auxquelles ils s'associent. Hein, psychose plus psychopathie. Donc, il a tenu bon, et il a tenu bon sur cette frontière à laquelle tenaient tant les aliénistes, à savoir, ça n'est pas la même chose.
Alors justement, quelle différence entre psychopathe et psychotique, la question est posée en 2001.
Quelle est la différence entre psychotique et psychopathe ? Et quelle est la proportion des uns et des autres en UMD ?
Bon, il y a différentes définitions, hein, donc je vous dirai un petit peu ce qui me passe là par la tête. La psychopathie renvoie davantage à un mode de fonctionnement, hein, chez des personnalités particulières, avec troubles du caractère en particulier. Il ne s'agit pas là, à proprement parler, d'état pathologique, mais d'un type de fonctionnement qui est centré sur l'impulsivité, l'immédiateté. Psychotique renvoie davantage à délire, méconnaissance pour des raisons pathologiques des réalités. Et là, on est beaucoup plus dans le champ de la pratique psychiatrique, et c'est davantage notre clientèle. Ceci étant, des psychopathes graves peuvent avoir des moments de fragilisation, de décompensation, et dans des temps très particuliers, relever de soins spécialisés.
Voilà un extrait de l'émission « Surpris par la nuit » sur France Culture en 2001 et la voix de Christian Kotler, médecin psychiatre. Sarah Smadja, quand les psychopathes arrivent à l'hôpital, c'est souvent dans le cadre de décompensation psychotique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Dans le cadre de, c'est comme ça qu'on les voit arriver à l'hôpital, hein, dans le cadre de décompensation psychotique ou dans le cadre de décompensation thymique aussi, donc des dépressions ou des moments de décompensation psychotique avec des idées délirantes qui sont souvent survenues aussi dans le contexte de consommation de toxiques. Donc le travail du psychiatre à l'hôpital va être de démêler ce qui relève de la pathologie psychiatrique classique et de ce qui relève du trouble de la personnalité. Et bien souvent, donc on traite, et dès qu'on traite, vont venir, une fois la crise calmée, vont venir s'exprimer des comportements de transgression qu'on va voir à l'hôpital. Et c'est le moment où il faut vite faire sortir le patient pour qu'il poursuive sa vie en dehors.
Daniel Zaguri.
Le psychopathe, c'est pas un malade facile, hein. Donc, plus que les autres, il fait des accidents psychotiques, il fait des bouffées délirantes, des raptus suicidaires qui sont parfois extrêmement spectaculaires, avec des suicides graves, mais dont on a la surprise de voir que ça évolue très vite. Très vite. Il n'y a pas le processus. La plupart des psychopathes ne sont pas accessibles, si je puis dire, à la dépression. Ils peuvent s'effondrer, mais ils ne sont pas accessibles à la dépression. Donc, comme le dit Sarah, une fois passé l'orage, il redevient ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il va commencer à faire le matou et à tourner autour des pauvres femmes schizophrènes, qu'il va commencer à piquer dans les sacs, qu'il va commencer à organiser la fumette dans le service, et que très vite, on va prendre la décision de le renvoyer à son destin, parce que ça, on ne sait pas le soigner. C'est une manière d'être au monde. Et comme disait Georges Lanthéry-Laura, c'est une escroquerie sémiologique de considérer ces troubles des conduites comme des signes de maladie.
Donc ça veut dire qu'on ne guérit pas de la psychopathie, Sarah Smadja ?
Dans le sens où c'est pas une maladie, on peut pas en guérir. C'est une façon d'être au monde. Donc, il va s'agir d'accompagner cette façon d'être au monde et d'agir sur certains traits qui vont être accessibles, notamment, je pense, à l'impulsivité dont on parlait. L'impulsivité, on a aujourd'hui des traitements qui permettent de calmer l'impulsivité. On a aussi des thérapies qui permettent de gérer les émotions. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces dimensions, je parlais de l'impulsivité, vont se calmer avec le temps. Bien souvent, vers l'âge de 40 ans, quand même, les troubles du comportement diminuent et les choses se calment.
Bien, comment accompagne-t-on ces troubles concrètement? Quelle est la prise en charge? Restez avec nous, on passe au reportage du jour. À l'heure actuelle, il n'existe pas de thérapie pour traiter la psychopathie de manière durable, mais certaines approches non médicamenteuses peuvent aider les patients. Pour le reportage du jour, nous sommes allés à l'Université Paris-Nanterre découvrir une méthode qui a fait ses preuves pour d'autres troubles du comportement, et c'est avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha, oui, il s'agit de la thérapie cognitivo-comportementale ou TCC. Alors c'est une thérapie à durée limitée qui vise à interroger les comportements inadaptés par des pensées et des réactions en adéquation avec la réalité de l'ici et maintenant. J'ai retrouvé Cyril Bouvet, professeur de psychologie clinique, qui nous explique comment dans ce cadre le patient et le psychothérapeute travaillent ensemble en binôme pour identifier et comprendre le problème en fonction de trois paramètres psychologiques: les émotions, les pensées associées et les comportements.
Là, on est dans le bâtiment Zazo, qui s'appelait le bâtiment C avant, de l'Université de Nanterre, et qui est en fait le bâtiment où se trouve le département de psychologie, sciences psychologiques et sciences de l'éducation. Et là, on rentre dans l'espace Régine Selle, qui est donc la plateforme EPNR, qui est la plateforme de recherche de psycho et sciences de l'éducation. EPNR, ça veut dire sciences de l'éducation, psychologie et neurosciences.
Bonjour.
Bonjour Sana.
Bonjour Cyril.
Ça va et toi? Et donc nous, on a une salle là, donc il y a des petites salles, des grandes salles.
Oui, il y a la salle, par exemple celle-ci, c'est une petite salle. Ensuite là, on a par box individuelle, les expérimentations collectives. Puis là, c'est les expérimentations individuelles. Là, on a le baby lab, c'est les expériences avec les bébés.
Donc les thérapies comportementales et cognitives, donc ce sont des psychothérapies déjà. Ça veut dire que ce sont des thérapies qui ont pour objet de modifier des problèmes psychologiques avec des moyens psychologiques. Donc pas de traitement. Bon, les gens peuvent prendre des traitements par ailleurs, mais pas dans le cadre de la psychothérapie elle-même. Ils peuvent avoir un psychiatre qui prescrit des traitements à côté. Ensuite, comportementales et cognitives. Alors on dit maintenant comportementales, cognitives et émotionnelles. En fait, on dit qu'il y a trois vagues dans ces thérapies. La première vague, dans les années 50, c'est la vague comportementale, le behaviorisme. Ensuite, avec Beck, Aaron Beck, on passe dans les années 70 plutôt aux approches cognitives qui sont fondées au départ en critique du comportementalisme. Et ensuite, il y a depuis 20-30 ans une approche émotionnelle qui, elle, est plutôt basée sur le rapport qu'on a avec nos émotions. Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Souvent, ce qui va entretenir des troubles, c'est que les gens vont chercher à éviter leurs émotions, ne pas les vivre, ne pas les ressentir parce qu'elles sont désagréables et qu'elles font mal. Et donc, un des principes de ces approches, c'est par exemple dans l'approche ACT, Acceptance and Commitment Therapy, donc les thérapies d'acceptation et d'engagement, c'est d'accepter les émotions. Et donc, il y a des techniques thérapeutiques pour amener les gens à mieux ressentir, accepter d'être traversés par des émotions sans les refuser. Et on s'aperçoit que c'est probablement, dans la plupart des cas, une des meilleures façons de gérer ces émotions.
Dans le cas des psychopathies, où le rôle des émotions est majeur, en quoi la TCC peut être utile, ou justement elle repose sur travailler avec les émotions?
Alors dans le cas de la psychopathie, alors déjà c'est des patients, surtout en libéral, qu'on voit rarement en fait.
Déjà il faut être volontaire.
Bah déjà il faudrait qu'ils aient la motivation de se soigner, et qu'ils aient l'idée que quelque chose ne va pas.
Conscience.
En fait, la principale motivation pour aller voir un psy, c'est de souffrir. Et de penser que cette souffrance vient de quelque chose en soi. Et les gens qui souffrent, ou en tout cas qui ont de la psychopathie, on va dire ça comme ça, ou qui ont un trouble de la personnalité, alors bon, on dit plutôt antisocial, en général, ils ne vont pas consulter parce qu'ils ont plutôt l'idée que le problème vient des autres, ils ont plutôt l'idée qu'il n'y a pas de choses problématiques à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne sont pas très conscients de leurs émotions, d'une façon superficielle. Donc c'est des patients qu'on voit très peu. En général, quand ils vont voir des psys, c'est qu'ils y sont contraints par la justice. Parce que bah, soit ils ont eu des comportements violents et des comportements destructeurs, parce que c'est une de leurs caractéristiques, de pouvoir avoir des comportements de ce type-là. Et dans ce cas, bah, ils sont arrêtés, ils ont une obligation de soins. Donc ils vont voir des psys, mais même là, c'est difficile parce qu'ils ne sont pas motivés, parce qu'ils ont tendance à avoir la relation thérapeutique comme une sorte de combat où il faudrait plutôt manipuler l'autre plutôt que d'essayer de changer soi-même. Et la motivation à se changer soi-même, c'est quand même un des moteurs principaux de la psychothérapie. Je vois des patients depuis très longtemps et j'ai quand même une conviction qui augmente au fur et à mesure, c'est que la thérapie, c'est le patient qui l'a fait. C'est ce qui se passe chez lui qui est important. Le thérapeute, il peut faire deux fois la même chose avec deux patients différents, ça ne va pas du tout avoir le même effet, puis ça dépend comment le patient va s'en emparer. Et si le patient psychopathe ne s'en empare pas du tout, parce qu'il va considérer qu'il peut mépriser le thérapeute, il peut l'agresser, il peut considérer que tout ça, ça ne sert à rien, il n'y aura pas de changement en fait. Et les études montrent que c'est très difficile d'aider ces gens-là, effectivement, puisqu'en général, ça ne marche pas, il y a des taux d'interruption importants, beaucoup d'approches ne fonctionnent pas avec eux. Et les approches qui fonctionnent le font, mais tiennent pas trop dans la durée, en fait. Voilà, donc il y a encore des recherches à mener, des expérimentations à faire pour trouver, en fait, les leviers. Pour la récidive, il y a une approche qui s'appelle risk-need-responsiveness, c'est-à-dire risque, besoin et la façon dont la personne va intégrer la thérapie, qui est une approche canadienne et qui, elle, montre quand même des résultats intéressants sur... pour éviter le risque de récidive.
Ça repose sur quel principe en pratique ?
Donc c'est centré, alors c'est sur des principes théoriques TCC, mais c'est centré très précisément sur le risque de récidive, sur les facteurs de risque de récidive. Les addictions, les environnements toxiques, la gestion de l'impulsivité, etc. Ça, ce sont des domaines sur lesquels on peut agir. Donc le principe de cette approche, c'est d'être, qui n'est pas encore solidement implanté en France, malheureusement, c'est de faire une évaluation très précise avec des questionnaires, avec toutes sortes d'évaluations, donc des différents risques, puis d'adapter la thérapie à chaque personne. Donc là, on rentre dans la salle avec des expérimentations et du matériel de réalité virtuelle. Une sorte de box de réalité virtuelle.
Ah oui,
ici.
C'est comme une cabine en fait.
Une cabine de réalité virtuelle.
Hein, donc, ça va, c'est pas trop confiné non plus. Voilà. On s'en sert pour les TCC, par exemple, réalité virtuelle.
Oui, tout à fait. Oui. Pour, par exemple, une des responsables de cette salle, c'est Lucia Romo, donc spécialiste des addictions, en particulier pour des expositions avec des patients. Et donc, ça les met virtuellement dans des situations qui sont difficiles à recréer en cabinet. Et heureusement qu'on a cette plateforme, parce que sinon, on n'a pas tellement de salles, en fait, pour faire de la recherche. Puisque souvent, en tout cas en pathoclinique, on fait ça dans des institutions, des hôpitaux, des associations. Mais en tout cas, il y a quand même un beau matériel et de beaux projets autour de ça.
Merci Céline Lozen. Nos reportages pour sortir du studio, c'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Daniel Zaguri, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Ma réaction, c'est que il a parfaitement raison. Ce ne sont pas des sujets qui demandent des soins. Ce sont des sujets qui viennent se mettre à l'abri quand ça chauffe un petit peu, parce qu'ils ont fait des transgressions et qui se mettent à l'abri de la justice. Ce sont des sujets qui viennent à la suite de troubles du comportement, par exemple en ce qu'on appelait autrefois l'hospitalisation d'office, hein, et ce qu'on appelle aujourd'hui un soin à la demande d'un représentant de l'État. On va soigner quand il y a une affection aiguë. On va la soigner. Et puis après, on va tenter une accroche thérapeutique. Mais moi, je ne suis pas nécessairement pessimiste. Hein. J'ai vu comme ça un certain nombre de sujets. Bon, on les perd de vue. Et puis on les revoit quelques temps après, à nouveau d'un épisode, une sorte de toxicomanie, d'alcoolisme. Et puis, petit à petit, ces petits moments de discontinuité, si vous voulez, qu'on a engagés avec eux, vont peut-être, dans la meilleure hypothèse, se transformer, basculer dans une sorte de ligne continue. Donc, ce qu'on n'a pas dit quand même, ce qui est quand même très très important, c'est que ce qui caractérise la plupart de ces sujets, c'est le court-circuit dans l'acte. Et là, je dirais la haine de la pensée. La pensée ne peut pas être accueillie. La pensée est insupportable. C'est trop excitant. C'est trop. Et donc, c'est très difficile d'engager une thérapie qui implique un minimum de, je dirais, de différer l'action et de mettre en jeu ces processus de pensée. Voilà. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais c'est pas simple.
Sarah Smadja.
Alors, moi, ça m'évoque Stanley Kubrick, en fait, et Orange Mécanique.
C'est terrible, scène, en effet.
Qui est une forme de critique du conditionnement aversif où on associait en tout cas des images de violence au déclenchement de nausées qui ne fonctionnaient pas du tout dans le film de Kubrick. Bon, là, on est sur une troisième vague de TCC, donc ça fonctionne un peu mieux, mais on voit bien qu'en effet, il n'y a pas de souffrance, donc il n'y a pas de demande. C'est quand même un des principaux problèmes et que surtout il y a une difficulté à reconnaître les émotions négatives et à apprendre du conditionnement aversif et à apprendre de la punition. C'est ça la grande difficulté. Donc je pense que tout doit se concentrer sur la prévention chez le jeune parce que c'est là que les choses peuvent encore bouger avec l'environnement.
On arrive vers la fin de cette discussion et on entendait parler dans ce reportage de justice. Alors le psychopathe n'est pas déconnecté de la réalité, contrairement aux individus psychotiques. Le psychopathe rationnel, lucide, conscient de ce qu'il fait. Sarah Smadja, alors quel traitement pénal leur réserve-t-on ?
Alors déjà, on considère qu'ils sont responsables. Il n'y a pas d'irresponsabilité pénale en cas de trouble de la personnalité antisociale ou psychopathique. Et souvent, ça évolue vers soit des soins pénalement ordonnés quand il s'agit de consommation, par exemple, de toxiques qui sont comorbides et qui peuvent favoriser le passage à l'acte et qui peuvent l'aggraver. Ou l'accès à ces thérapies en soins pénalement ordonnés. Mais on sait bien que voilà, la motivation intrinsèque n'est pas là et que donc c'est, je dirais, le surmoi de la justice qui va permettre de construire quelque chose et heureusement aussi que la situation se calme avec l'âge.
C'est que pas de maladie mentale, donc pas de déresponsabilisation.
C'est ça.
C'est ça. Un dernier mot pour conclure, Daniel Zaguri.
Il n'y a pas de déresponsabilisation, sauf si, par exemple, il fait un épisode psychiatrique aigu. Mais il y a quand même une illustration dans l'actualité tout à fait extraordinaire de la question que vous posez, c'est celle de l'assassin de Sarah Halimi. Il a été irresponsabilisé. À mon avis, je l'ai dit, mais à tort. Bon, il a été irresponsabilisé, donc il a fait une bouffée délirante aiguë, il a été hospitalisé, et puis il a guéri, et puis on l'a maintenu à l'hôpital psychiatrique alors qu'il n'avait manifestement depuis longtemps plus de troubles, et s'est produit ce qui devait se produire, c'est-à-dire une récidive en termes d'attaques et de vols et d'escroqueries.
En tout cas, merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Et là maintenant, tout de suite, eh bien, on change complètement de sujet, on quitte la psychiatrie pour la bioacoustique des chevaux. C'est la chronique avec science, une chronique signée Alexandra Delbo. Merci.
Comment le cheval parvient-il à faire des sons aussi aigus ? C'est un phénomène assez étonnant. Le hennissement du cheval est composé de fréquences très hautes. Pourtant, il existe une règle en biologie nommée l'allométrie acoustique qui décrit une cohérence entre la taille des animaux et leur vocalisation. Plus un animal est imposant, plus son larynx et ses cordes vocales sont grands et plus le son est grave. À l'inverse, les petits animaux ont de petits organes et donc leurs cris sont beaucoup plus aigus, mais le cheval est une exception. Romain Lefebvre est docteur en biologie. Il a réalisé ses travaux lors de sa thèse dans le laboratoire d'écologie comportementale de l'Université de Copenhague.
Donc c'est le même principe, si vous voulez, qu'entre les cordes d'un violon et d'une contrebasse. Un cheval donc de 500 kg devrait avoir une voix extrêmement grave, suivant ce principe. Pourtant, quand on écoute un hennissement, eh bien, on entend des fréquences très aiguës, autour de 1500 Hz, et c'est beaucoup trop aigu pour un animal de ce gabarit. Le cheval devrait produire des sons de baryton, et ici, en l'occurrence, on est quand même plus proche d'une chanteuse soprano. hennissement va se composer de trois parties distinctes, avec une première partie très aiguë, avec cette fréquence donc isolée, et puis une seconde partie où nous aurons, sans mauvais jeu de mots, un chevauchement de la fréquence aiguë avec la fréquence grave, et sur une fin de partie de notre hennissement, on aura plutôt effectivement cette fréquence grave isolée. Donc cette bifonation, comparativement à beaucoup d'autres espèces, est quand même bien plus fréquente chez le cheval donc que chez certains de ses homologues et des équidés notamment. On retrouve chez son homologue sauvage, les chevaux de Przewalski, cette bifonation-là. Par contre, chez le zèbre notamment et chez l'âne, elle est absente.
On entend bien la bifonation avec le son aigu et grave, et on connaît déjà d'ailleurs le sens de cette double vocalisation. Elle traduit l'émotion perçue par l'animal, autant dans son niveau d'intensité que dans son caractère positif ou négatif. Un exemple ici avec un cheval très content. Ici avec un cheval pas content. Alors c'est assez subtil, mais la fréquence aiguë est un petit peu plus haut perché et légèrement plus longue. Allez, un deuxième pour la route, un cheval content et un cheval moins content. La fréquence aiguë est beaucoup plus aiguë et plus longue encore une fois. Ça, c'était une découverte faite en 2015, mais une grande question restait en suspens. Comment le cheval parvient-il, avec un seul larynx et une seule paire de cordes vocales, à produire deux sons en simultané? C'est l'objectif de cette nouvelle étude parue dans Current Biology. Et pour cela, il a fallu leur souffler un peu dans les bronches. Les scientifiques ont récupéré des larynx de chevaux auprès d'abattoirs, et puis ils ont fait passer de l'air et de l'hélium dedans, des gaz différents pour justement différencier la façon de produire les sons. Et résultat, quand il hennit, le cheval fait à la fois vibrer ses cordes vocales et siffler son larynx.
Un son grave qui va être produit par vibration de corde vocale, comme on le retrouve communément chez la plupart effectivement des mammifères, et bien sûr chez l'homme également. Et puis donc une fréquence un peu plus aiguë, donc un sifflement qui va être produit par un passage d'air assez rapide dans un faible interstice laissé ouvert au sein de l'appareil vocal du cheval. Pour reprendre une analogie qui serait parlante, c'est un sifflement qui est assez similaire à celui que vous pourriez vous-même reproduire en vous pinçant les lèvres. On a aussi enregistré des hennissements de chevaux atteints de cornage, qui est une affection respiratoire, mais une paralysie aussi partielle des cordes vocales. Et on a remarqué, en analysant les vocalisations de ces chevaux, que le son grave était haché ou absent, alors que le son aigu, lui, dans leur hennissement, n'était pas affecté par cette pathologie. Et ça démontre d'autant plus ici que nous avons deux mécanismes indépendants à l'œuvre dans la production de ces deux types de sons.
On connaissait déjà son existence chez deux petits rongeurs qui communiquent en ultrasons, mais c'est la première fois qu'un sifflement laryngé est mis en évidence chez un grand mammifère. Selon ce chercheur, ce sifflement très aigu est idéal pour propager des informations à longue distance. On sait que les chevaux s'en servent pour communiquer à plus d'un kilomètre parce que cette vocalisation au perché ne se font pas dans le reste de l'environnement. Elle ne peut pas être confondue avec d'autres bruits aux alentours. La suite, ce sera de mieux comprendre comment les chevaux communiquent avec leurs congénères, mais aussi de mener le même type d'expérience de vocalisation ex vivo qu'ici, donc soufflée dans des larynx, chez le wapiti par exemple, un autre gros mammifère capable de produire lui aussi des bifonations. Et dernière piste, cette fois plus appliquée à la médecine vétérinaire, cette découverte permet d'envisager des outils diagnostiques pour repérer des maladies respiratoires des chevaux en écoutant seulement leur hennissement.
Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Louise Ormond-Ségy. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.